Chapitre 3 La quête de la belle aux cheveux d'or. Il y avait à la cour du roi Marc quatre barons les plus félons des hommes qui haïssaient Tristan de mâle haine pour sa prouesse et pour le tendre amour que le roi lui portait. Et je sais vous redire leurs noms, André, Guénelon, Gondouan et Deroualen. Or, le duc André était comme Tristan un neveu du roi Marc. Connaissant que le roi méditait de vieillir sans enfant pour laisser sa terre à Tristan, leur envie s'irrita, et par des mensonges, ils animaient contre Tristan les hauts hommes de Cornouailles. « Que de merveilles en sa vie !» disaient les félons. « Mais vous êtes des hommes de grand sens, seigneur, et qui savaient sans doute en rendre raison. Qu'il ait triomphé du Morolte, voilà déjà un beau prodige, mais par quels enchantements a-t-il pu, presque mort, voguer seul sur la mer ? Lequel de nous, seigneur, dirigerait une nef sans rame ni voile ? Les magiciens le peuvent, dit-on. Puis, en quel pays de sortilège a-t-il pu trouver remède à ses plaies ? Certes, il est un enchanteur. Oui, sa barque était fée, et pareillement son épée, et sa harpe est enchantée, qui chaque jour verse des poisons au cœur du roi Marc. Comme il a su dompter ce cœur par puissance et charme de sorcellerie ! Il sera roi, seigneur, et vous tiendrez vos terres d'un magicien !» Ils persuadèrent la plupart des barons, car beaucoup d'hommes ne savent pas ce qui est du pouvoir des magiciens. Le cœur peut aussi l'accomplir par la force de l'amour et de la hardiesse. C'est pourquoi les barons pressèrent le roi Marc de prendre à femme une fille de roi qui lui donnerait des héritiers. S'il refusait, il se retirerait dans leur fort château pour le guerroyer. Le roi résistait et jurait dans son cœur qu'aussi longtemps que vivrait son cher neveu, nulle fille de roi n'entrerait dans sa couche. Mais à son tour, Tristan, qui supportait à grand honte le soupçon d'aimer son oncle à bon profit, le menaça. Que le roi se rendit à la volonté de sa baronnie, sinon il abandonnerait la cour, il s'en dirait servir le riche roi de Gavois. Alors Marc fixa un terme à ses barons, à 40 jours de là, il dirait sa pensée. Au jour marqué, seul dans sa chambre, il attendait leur venue et songeait tristement. « Oh, donc trouver, fille de roi, si lointaine et inaccessible, que je puisse feindre, mais feindre seulement, de la vouloir pour femme ?» Dans cet instant, par la fenêtre ouverte sur la mer, deux hirondelles qui bâtissaient leur nid entrèrent en se querellant, puis, brusquement effarouchées, disparurent. Mais de leur bec s'était échappé un long cheveu de femme, plus fin que fil de soie, qui brillait comme un rayon de soleil. Marc, l'ayant pris, fit entrer les barons et Tristan, et leur dit « Pour vous complaire, seigneur, je prendrai femme. Si, toutefois, vous voulez quérir celle que j'ai choisie, « Oh, certes, nous le voulons, beau seigneur. Qui donc est celle que vous avez choisie ?»« J'ai choisi celle qui fut ce cheveu d'or. Et sachez que je n'en veux point d'autre. Et de quelle part, beau seigneur, vous vient ce cheveu d'or ? Qui vous l'apportez ? Et de quel pays ? Il me vient, seigneur, de la belle aux cheveux d'or. Deux hirondelles me l'ont porté, elles savent de quel pays. » Les barons comprirent qu'ils étaient raillés et déçus. Ils regardaient Tristan avec dépit, car ils le soupçonnaient d'avoir conseillé cette ruse. Mais Tristan, ayant considéré le cheveu d'or, se souvint d'Iseut la blonde. Il sourit et parla ainsi. « Roi Marc, vous agissez à grand tort. Et ne voyez-vous pas que les soupçons de ces seigneurs me honnissent ? Mais vainement vous avez préparé cette dérision. J'irai quérir la belle aux cheveux d'or. Sachez que la quête est périlleuse, et qu'il me sera plus malaisé de retourner de son pays que de l'île où j'ai tué le Morholt. Mais de nouveau, je veux mettre pour vous, bel oncle, mon cœur et ma vie à l'aventure, afin que vos barons connaissent si je vous aime d'amour loyal. J'engage ma foi par ce serment. Ou je mourrai dans l'entreprise, ou je ramènerai en ce château de Tintagel la reine aux blonds cheveux. » Il équipa une belle nef qu'il garnit de froment, de vin, de miel et de toutes bonnes denrées. Il y fit monter, outre Gorneval, 100 jeunes chevaliers de haut parage, choisis parmi les plus hardis, et les affubla de cottes de bure et de chapes de camelins grossiers, en sorte qu'ils ressemblaient à des marchands. Mais sous le pont de la nef, ils cachaient les riches habits de drap d'or, de sandales et d'écarlate, qui conviennent aux messagers d'un roi puissant. Quand la nef fut prise le large, le pilote demanda: « Beau seigneur, vers quelle terre naviguer ? Ami, cingle vers l'Irlande, droite au port de Faithfort. » Le pilote frémit. Tristan ne savait-il pas que depuis le meurtre du Morholt, le roi d'Irlande pourchassait les nefs cornoyaises ? Les mariniers saisis, ils les pendaient à des fourches. Le pilote obéit pourtant et gagna la terre périlleuse. D'abord, Tristan sut persuader aux hommes de Weissefort que ses compagnons étaient des marchands d'Angleterre, venus pour trafiquer en paix. Mais, comme ces marchands d'étrange sorte, consumaient le jour au noble jeu des tables et des échecs, et paraissaient mieux s'entendre à manier les dés qu'à mesurer le froment, Tristan redoutait d'être découvert et ne savait comment entreprendre sa quête. Or, un matin, au point du jour, il ouït une voix si épouvantable qu'on eût dit le cri d'un démon. Jamais il n'avait entendu bête glapir en telle guise, si horrible et si merveilleuse. Il appela une femme qui passait sur le port. « Dites-moi, fait-il, dame, d'où vient cette voix que j'ai ouïe ? Ne me le cachez pas. » « Oh, certes, sire, je vous le dirai sans mensonge. Elle vient d'une bête fière et la plus hideuse qui soit au monde. Chaque jour, elle descend de sa caverne et s'arrête à l'une des portes de la ville. Nul n'en peut sortir, nul n'y peut entrer, qu'on ait livré au dragon une jeune fille. Et dès qu'il la tient entre ses griffes, il la dévore, en moins de temps qu'il n'en faut, pour dire une patte nôtre. « Dame, dit Tristan, ne vous raillez pas de moi. Mais dites-moi, s'il serait possible à un homme né de mer de l'oxyre en bataille ? Oh, certes, beau doux sire, je ne sais. Ce qui est assuré, c'est que 20 chevaliers éprouvés ont déjà tenté l'aventure, car le roi d'Irlande a proclamé par voix de héros qu'il donnerait sa fille, Iseut la blonde, à qui tuerait le monstre, mais le monstre les a tous dévorés. Tristan quitte la femme et retourne vers sa nef. Il s'arme en secret, et il lui fait beau voir sortir de la nef de ses marchands, si riches destriers de guerre et si fiers chevaliers. Mais le port était désert, car l'aube venait à peine de poindre, et nul ne vit le preux chevaucher jusqu'à la porte que la femme lui avait montrée. Soudain, sur la route, cinq hommes dévalèrent, qui éperonnaient leurs chevaux, les freins abandonnés et fuyaient vers la ville. Tristan saisit au passage l'un d'entre eux par ses rouges cheveux tressés, si fortement qu'il le renversa sur la croupe de son cheval et le maintint arrêté. « Dieu vous sauve, beau sire, » dit Tristan. « Par quelle route vient le dragon ?» Et quand le fuyard lui eut montré la route, Tristan le relâcha. Le monstre approchait. Il avait la tête d'une guivre, les yeux rouges et tels que des charbons embrasés, deux cornes au front, les oreilles longues et velues, des griffes de lion, une queue de serpent, le corps écaillé d'un griffon. Tristan lança contre lui son destrier d'une telle force que tout hérissé de peur, il bondit pourtant contre le monstre. La lance de Tristan heurta les écailles et vola en éclats. Aussitôt, le preux tire son épée, la lève et la scène sur la tête du dragon, mais sans même entamer le cuir. Le monstre a senti l'atteinte. Pourtant, il lance ses griffes contre l'écu, les y enfonce et en fait voler les attaches. La poitrine découverte, Tristan le requiert encore de l'épée et le frappe sur les flancs, d'un coup si violent que l'air en retentit. Vainement, il ne peut le blesser. Alors, le dragon vomit par les naseaux un double jet de flammes venimeuses. Le haubert de Tristan noircit comme un charbon éteint, son cheval s'abat et meurt. Mais, aussitôt relevé, Tristan enfonce sa bonne épée dans la gueule du monstre. Elle y pénètre toute et lui fend le cœur en deux parts. Le dragon pousse une dernière fois son cri horrible et meurt. Tristan lui coupa la langue et la mit dans sa chausse. Puis, tout étourdi par la fumée âcre, il marcha pour y boire vers une eau stagnante qu'il voyait briller à quelque distance. Mais le venin distillé par la langue du dragon s'échauffa contre son corps et dans les hautes herbes qui bordaient le marécage, le héros tomba inanimé. Or, sachez que le fuyard aux rouges cheveux tressés était un Gwynegerran, le roux, le sénéchal du roi d'Irlande, et qu'il convoitait Iseut la blonde. Il était coire, mais telle est la puissance de l'amour, que chaque matin il s'embusquait armé pour assaillir le monstre. Pourtant, du plus loin qu'il entendait son cri, le preux fuyait. Ce jour-là, suivi de ses quatre compagnons, il osa rebrousser chemin. Il trouva le dragon abattu, le cheval mort, l'écu brisé, et pensa que le vainqueur achevait de mourir en quelques lieues. Alors, il trancha la tête du monstre, la porta au roi, et réclama le beau salaire promis. Le roi ne crut guère à sa prouesse, mais, voulant lui faire droit, il fit semondre ses vassaux de venir à sa cour, à 3 jours de là. Devant le bardage assemblé, le sénéchal Gwynegerran fournirait la preuve de sa victoire. Quand Iseut la blonde apprit qu'elle serait livrée à ce coir, elle fit d'abord une longue risée, puis se lamenta. Mais le lendemain, soupçonnant l'imposture, elle prit avec son valet le blond, le fidèle Périnice, et Brangien, sa jeune servante et sa compagne, et tous trois chevauchèrent en secret vers le repère du monstre, tant qu'Iseut remarqua sur la route des empreintes de forme singulière. Sans doute, le cheval qui avait passé là n'avait pas été ferré en ce pays. Puis elle trouva le monstre sans tête et le cheval mort. Il n'était pas harnaché, selon la coutume d'Irlande. Certes, Un étranger avait tué le dragon, mais vivait-il encore? Iseut, Périnis et Brangien le cherchèrent longtemps. Enfin, parmi les herbes du marécage, Brangien vit briller le heaume du preux. Il respirait encore. Périnis le prit sur son cheval et le porta secrètement dans les chambres des femmes. Là, Iseut conta l'aventure à sa mère et lui confia l'étranger. Comme la reine lui ôtait son armure, la langue envenimée du dragon tomba de sa chausse. Alors, la reine d'Irlande réveilla le blessé par la vertu d'une herbe et lui dit « Étranger, je sais que tu es vraiment le tueur du monstre. Mais notre sénéchal, un félon, un couard, lui a tranché la tête et réclame ma fille Iseut de la Blonde pour sa récompense. Seras-tu, à 2 jours d'ici, lui prouver son tort par bataille ?»« Reine, dit Tristan, le terme est proche, mais sans doute vous pouvez me guérir en 2 journées. J'ai conquis Iseut sur le dragon, peut-être je la conquérerai sur le sénéchal. » Alors la reine l'hébergea richement et brassa pour lui des remèdes efficaces. Au jour suivant, Iseut la Blonde lui prépara un bain et doucement oignit son corps d'un baume que sa mère avait composé. Elle arrêta ses regards sur le visage du blessé, vit qu'il était beau et se prit à penser « Certes, si sa prouesse vaut sa beauté, mon champion fournira une rude bataille. » Mais Tristan, ranimé par la chaleur de l'eau et la force des aromates, la regardait, et, songeant qu'il avait conquis la reine aux cheveux d'or, se mit à sourire. Iseut le remarqua et se dit « Pourquoi cet étranger a-t-il souri? Ai-je rien fait qui ne convienne pas? Ai-je négligé l'un des services qu'une jeune fille doit rendre à son hôte? Oui, peut-être a-t-il ri parce que j'ai oublié de parer ses armes ternies par le venin. » Elle vint donc là où l'armure de Tristan était déposée. « Ce homme est de bon acier, pensa-t-elle, et ne lui faudra pas au besoin. Et ce Aubert est fort léger, bien digne d'être porté par un preux. » Elle prit l'épée par la poignée. « Certes, c'est là une belle épée, et qui convient à un hardi baron. » Elle le tire du riche fourreau pour l'essuyer la lame sanglante, mais elle voit qu'elle est largement ébréchée. Elle remarque la forme de l'entaille. Ne serait-ce point la lame qui s'est brisée dans la tête du Morholt? Elle hésite, regarde encore, veut s'assurer de son doute. Elle court à la chambre où elle gardait le fragment d'acier retiré naguère du crâne du Morholt. Elle joint le fragment à la brèche, à peine voyait-on la trace de la brisure. Alors, elle se précipita vers Tristan, et faisant tournoyer sur la tête du blessé la grande épée, elle cria « Tu es Tristan de Launoy, le meurtrier du Morholt, mon cher oncle. Meurs donc à ton tour !» Tristan fit effort pour arrêter son bras. Vainement, son corps était perclus, mais son esprit restait agile. Il parla donc avec adresse. « Soit, je mourrai. Mais pour t'épargner les longs repentirs, écoute. Fille de roi, sache que tu n'as pas seulement le pouvoir, mais le droit de me tuer. Oui, tu as le droit sur ma vie, puisque 2 fois, tu me l'as conservé et rendu. Une première fois, naguère, j'étais le jongleur désespéré que tu as sauvé quand tu as chassé de son corps le venin dont les pieds du Morholt l'avaient empoisonné. Ne rougis pas, jeune fille, d'avoir guéri ses blessures. Ne les avais-je pas reçues en loyal combat? Ai-je tué le Morolt en trahison? Ne m'avait-il pas défié? Ne devais-je pas défendre mon corps? Pour la seconde fois, en m'allant chercher au marécage, tu m'as sauvé. Ah, mais c'est pour toi, jeune fille, que j'ai combattu le dragon. Mais laissons ces choses. Je voulais te prouver seulement que, m'ayant par deux fois délivré du péril de la mort, tu as le droit sur ma vie. Tue-moi donc, si tu penses y gagner louange et gloire. Sans doute, quand tu seras couché entre les bras du preux sénéchal, il te sera doux de songer à ton hôte blessé qui avait risqué sa vie pour te conquérir et t'avait conquise, et que tu auras tué sans défense dans ce bain. » Iseult s'écria: « J'entends merveilleuses paroles. Pourquoi le meurtrier du Morolt a-t-il voulu me conquérir? Sans doute, comme le Morolt avait jadis tenté de ravir sur sa nef les jeunes filles de Cordouailles, à son tour par belles représailles, tu as fait cette vengeance d'emporter comme ta serve celle que le Morolt chérissait entre les jeunes filles. » Non, fille de roi, dit Tristan. Mais un jour, deux hirondelles ont volé jusqu'à ta tagelle pour y porter l'un de tes cheveux d'or. J'ai cru qu'elles venaient m'annoncer paix et amour. C'est pourquoi je suis venu te conquérir par-delà la mer. C'est pourquoi j'ai affronté le monstre et son venin. Vois ce cheveu cousu parmi les fils d'or de mon bliot. La couleur des fils d'or a passé. L'or du cheveu ne s'est pas terni. Iseult te regarda la grande épée et prit en main le bliot de Tristan. Elle y vit le cheveu d'or et se tut longuement. Puis elle baisa son hôte sur les lèvres en signe de paix et le revêtit de riches habits. Au jour de l'assemblée des barons, Tristan envoya secrètement vers sa nef Périnice, le valet d'Iseult, pour mander à ses compagnons de se rendre à la cour, parés comme il convenait aux messagers d'un riche roi, car il espérait atteindre ce jour même au terme de l'aventure. Gorvenal, les 100 chevaliers, se désolaient depuis 4 jours d'avoir perdu Tristan. Ils se réjouirent de la nouvelle. Un à un, dans la salle où déjà s'amassaient sans nombre les barons d'Irlande, ils entrèrent, s'assirent à la file sur un même rang, et les pierreries ruisselaient au long de leurs riches vêtements d'écarlate, de sandales et de pourpre. Les Irlandais disaient entre eux: « Quels sont ces seigneurs magnifiques? Qui les connaît? Voyez ces manteaux somptueux, parés de zibelines et d'or froid. Voyez aux pommeaux des épées, aux fermailles des pelisses, chatoyer les rubis, les bérylles, les émeraudes, et tant de pierres que nous ne savons même pas nommer. Qui donc vit jamais splendeur pareille? Mais d'où viennent ces seigneurs? À qui sont-ils? » Mais les 100 chevaliers se taisaient et ne se mouvaient de leur siège pour nul qui entra. Quand le roi d'Irlande fut assis sous le dais, le sénéchal Aguilin Guéran le Roux offrit de prouver par témoin et de soutenir par bataille qu'il avait tué le monstre et qu'Iseult devait lui être livré. Alors Iseult s'inclina devant son père et dit: « Roi, un homme est là qui prétend convaincre votre sénéchal de mensonges et de félonies. À cet homme prêt à prouver qu'il a délivré votre terre du fléau et que votre fille ne doit pas être abandonnée à un couard, promettez-nous de pardonner ces torts anciens, si grands soient-ils, et de lui accorder votre merci et votre paix. » Le roi y pensa et ne se hâtait pas de répondre. Mais ses barons crièrent en foule: Octroyez-le, sire, octroyez-le. Le roi dit, et je l'octroie. Mais Iseult s'agenouilla à ses pieds. Père, donnez-moi d'abord le baiser de merci et de paix, en signe que vous le donnerez pareillement à cet homme. Quand elle eut reçu le baiser, elle alla chercher Tristan et le conduisit par la main dans l'assemblée. À sa vue, les 100 chevaliers se levèrent à la fois, le saluèrent les bras en croix sur la poitrine, se rangèrent à ses côtés, et les Irlandais virent qu'il était leur seigneur. Mais plusieurs le reconnurent alors, et un grand cri retentit. « C'est Tristan de l'Aulnoy ! C'est le meurtrier du Borholt !» Les épées du brillèrent, et des voix furieuses répétaient « Qu'il meure !» Mais Iseult s'écria « Roi, baise cet homme sur la bouche, ainsi que tu l'as promis. » Le roi le baisa sur la bouche, et la clameur s'apaisa. Alors Tristan montra la langue du dragon et offrit la bataille au sénéchal, qui n'osa l'accepter et reconnut son forfait. Puis Tristan parla ainsi. « Seigneur, j'ai tué le Morholt, mais j'ai franchi la mer pour vous offrir belle amandise. Afin de racheter le méfait, j'ai mis mon corps en péril de mort, et je vous ai délivré du monstre, et voici que j'ai conquis cette la blonde, la belle. L'ayant conquise, je l'emporterai donc sur ma nef. Mais, afin que par les terres d'Irlande et de Cornouailles se répandent non plus la haine mais l'amour, sachez que le roi Marc, mon cher seigneur, l'épousera. Voyez ici 100 chevaliers de haut parage, prêts à jurer sur les reliques des saints que le roi Marc vous mande paix et amour, que son désir est d'honorer Iseult comme sa chère femme épousée, et que tous les hommes de Cornouailles la serviront comme leur dame et leur reine. » On apporta les corsins à grand joie, et les 100 chevaliers jurèrent qu'il avait dit vérité. Le roi prit Iseult par la main et demanda à Tristan s'il la conduirait loyalement à son seigneur. Devant ses 100 chevaliers et devant les barons d'Irlande, Tristan le jura. Iseult la blonde frémissait de honte et d'angoisse. Ainsi, Tristan, l'ayant conquise, la dédaignait. Le beau conte du cheveu d'or n'était que mensonge, et c'est à un autre qu'il la livrait. Mais le roi posa la main droite d'Iseult dans la main droite de Tristan, et Tristan la retint en signe qu'il se saisissait d'elle au nom du roi des Cornouailles. Ainsi, pour l'amour du roi Marc, par la ruse et par la force, Tristan accomplit la quête de la reine aux cheveux d'or.